Chapitre 3. Depuis quelque temps, je m'étais assombri. Mon travail s'en ressentait. Il est vrai que beaucoup de documents me faisaient défaut, mais c'est la joie surtout qui me manquait. Il y avait plusieurs mois que j'avais renvoyé Titi à Papette, plusieurs mois que je n'entendais plus ce babil de la Vahinée, me faisant sans cesse à propos des mêmes choses les mêmes questions auxquelles je répondais invariablement par les mêmes histoires. Et ce silence ne m'était pas bon. Je résolus de partir, d'entreprendre autour de l'île un voyage dont je ne m'assignais pas d'une façon précise le terme. Tandis que je faisais quelques paquets légers pour le besoin de la route et que je mettais de l'ordre dans toutes mes études, mon voisin et propriétaire, l'ami Anani, me regardait inquiet. Il se décida enfin à me demander si je me disposais à m'en aller. Oh, je lui répondis que non, que je me préparais pour une promenade de quelques jours seulement, que je reviendrais. Il ne me crut pas et se mit à pleurer. Sa femme vint le rejoindre et me dit qu'elle m'aimait, que je n'avais pas besoin d'argent pour vivre parmi eux, qu'un jour je pourrais reposer pour toujours là, et elle me montrait près de sa case une place décorée d'un arbrisseau. Et j'eus le désir de reposer pour toujours là, du moins, personne, toute l'éternité, ne viendra m'y déranger. « Vous autres Européens, ajouta la femme d'Anani, vous promettez toujours de rester, et quand enfin on vous aime, vous partez. C'est pour revenir, assurez-vous, mais vous ne revenez jamais. » « Eh bien, je puis jurer, moi, que mon intention est de revenir dans quelques jours. Plus tard, oh, je n'osais mentir, plus tard, je verrai. » Enfin, je partis. M'écartant du chemin qui borde la mer, je suis à un étroit sentier à travers un fourré qui s'étend assez loin dans la montagne, et j'arrive dans une petite vallée dont les habitants vivent à l'ancienne mode maori. Ils sont heureux et calmes. Ils rêvent, ils aiment, ils sommeillent, ils chantent, ils prient, et je vois distinctement, bien qu'elle ne soit pas là, les statues de leur divinité féminine, statues de Hina et faites en l'honneur de la déesse lunaire. L'idole d'un seul bloc à 10 pieds d'une épaule à l'autre et 40 de hauteur. Sur la tête, elle porte en forme de bonnet une pierre énorme de couleur rougeâtre. Et autour d'elle, on danse selon les rites d'autrefois. Matabua et le vivo varis à notes claires et gaies, mélancoliques et sombrées avec les heures qui se succèdent. Je continue ma route. Atarabao, extrémité de l'île, un gendarme prête son cheval et je file sur la côte est, peu fréquentée des Européens. Afaone, petit district qui précède celui de Itiaha, je m'entends interpeller par un indigène. Hé, l'homme qui fait des hommes! Il sait que je suis peintre. Arimal Samara! « Viens manger avec nous », la formule traditionnelle hospitalière. Je ne me fais pas prier, tant le sourire qui accompagne l'invitation est engageant et doux. Je descends de cheval, mon hôte le prend et l'attache à une branche sans aucune servilité, simplement et avec adresse. Et nous entrons tous deux dans une case où sont réunis des hommes, des femmes et des enfants, assis par terre, causant et fumant. « Où vas-tu ? » me demande une belle Maori d'une 40aine d'années. « Oh, je vais à Itiaha. Pourquoi faire ?» Je ne sais quelle idée me passa par la tête, et peut-être, sans le savoir, disais-je le but réel, secret pour moi-même de mon voyage. Bien, pour y chercher une femme, répondis-je. Oh, Itiar, on a beaucoup et des jolies. Tu en veux une? Oui. Oh, si tu veux, je vais t'en donner une. C'est ma fille. Est-elle jeune? Oui. Est-elle bien portante? Oui. Bon, c'est bien, va me la chercher. La femme sortit. Un quart d'heure après, tandis qu'on apportait pour le repas des maillorets, bananes sauvages, des crevettes et un poisson, elle rentra, suivie d'une grande jeune fille qui tenait un petit paquet à la main. À travers la robe en mousseline rose excessivement transparente, on voyait la peau dorée des épaules et les bras. Deux boutons pointaient drus à la poitrine, et sur son visage charmant, je ne reconnus pas le type que jusqu'à ce jour j'avais vu partout régner dans l'île, et sa chevelure aussi était très exceptionnelle, poussée comme la brousse et légèrement crépue. Au soleil, tout cela faisait une orgie de chrome. Je sus dans la suite qu'elle était originaire des Tonga. Quand elle se fut assise auprès de moi, je lui fis quelques questions. Tu n'as pas peur de moi? Aïta, non. Veux-tu habiter ma case toujours? Eh, oui. Tu n'as jamais été malade? Aïta. Ce fut tout. Le cœur me battait pendant que la jeune fille, impassible, rangeait par terre devant moi, sur une grande feuille de bananier, les aliments qui m'étaient offerts. Je mangeais de bon appétit, mais j'étais préoccupé, intimidé. Cette jeune fille, cet enfant d'environ 13 années, me charmait et m'épouvantait. Que se passait-il dans cette âme? Et c'était moi, si vieux pour elle, qui hésitais au moment de signer un contrat si hâtivement conçu et conclu. Peut-être est-ce un marché qu'elles ont débattu entre elles, pensais-je. La mère a-t-elle ordonné, exigé? Peut-être, et pourtant, je voyais bien nettement chez la grande enfant les signes d'indépendance et de fierté qui sont les caractéristiques de sa race. Ce qui surtout me rassura, c'est qu'elle avait, à n'en pas douter, l'attitude, l'expression sereine qui accompagne chez les êtres jeunes une action honorable, louable. Mais le pli moqueur de sa bouche, d'ailleurs bonne et sensuelle, tendre, m'avertissait que le danger était pour moi, non pour elle. Je n'oserais dire qu'en franchissant le seuil de la case, je n'avais pas le cœur serré d'une étrange angoisse, d'une appréhension poignante, d'une réelle peur. Je pris mon cheval et je montai. La jeune fille suivit derrière. Sa mère, un homme, deux jeunes femmes, ses tantes, disait-elle, suivirent aussi. Nous revenions à Talavao, à 9 kilomètres de Faraone. Mais au premier kilomètre, on me dit: Praïtel, arrête-toi ici. Je descendis de cheval et nous entrâmes dans une grande case proprement tenue, presque riche, de la richesse des biens de la terre, de jolies nattes sur du foin, un ménage encore jeune et une extrême bonne grâce y demeuraient. Ma fiancée s'assit près de la femme et me la présenta. Voici ma mère. Puis, en silence, on versa dans un gobelet de l'eau fraîche dont nous bûmes tous à la ronde, comme s'il se fût agi d'une religion familiale. Après quoi, celle que ma fiancée venait de me présenter comme sa mère me dit, le regard ému, les paupières humides: Tu es bon? Je répondis, non, sans trouble, après avoir fait mon examen de conscience. Oui. Dans 8 jours qu'elle revienne, si elle n'est pas heureuse, elle te quittera. Un long silence. Enfin, nous sortîmes et de nouveau à cheval, je repartis, toujours suivi de mon escorte. Chemin faisant, nous rencontrâmes plusieurs personnes qui connaissaient ma nouvelle famille et qui, en la saluant, disaient à la jeune fille: Eh quoi, tu es maintenant la veinée d'un Français. Sois heureuse, bonne chance. Il y avait du doute dans son regard. Un point m'inquiétait. Comment Terra, ainsi se nommait ma femme, avait-elle deux mères? Je demandai donc à celle qui, la première, me l'avait offerte: Mais pourquoi m'as-tu menti? La mère de Terra me répondit: L'autre aussi est sa mère nourricière, celle qui s'en occupe. Je rêvais tout le long de la route et mon cheval, ne se sentant plus soutenu, marchait avec peu de confiance, trébuchant au contact des gros cailloux. À Talabao, je rendis au gendarme son cheval. La femme du gendarme, une Française sans malice, mais sans finesse, me dit: Comment? Vous ramenez avec vous une gourgandine? Et ses yeux haineux déshabillaient la jeune fille qui opposait une indifférence altière à cet injurieux examen. Je regardais un instant le spectacle symbolique que m'offraient ces deux femmes. C'était la décrépitude et la floraison nouvelle, la loi et la foi, l'artifice et la nature. Et sur celle-ci, celle-là, soufflait le souffle impur du mensonge et de la méchanceté. C'était aussi deux races en présence, et j'eus honte de la mienne. Il me semblait qu'elle tachait d'un nuage de fumée sale ce ciel si beau. Et j'en détournai vite mon regard pour le reposer et le réjouir à l'éclat de cet or vivant que j'aimais déjà. Les adieux de famille se firent à Talavao, chez le chinois qui lave avant de tout, et les hommes et les bêtes. Nous prîmes, ma fiancée et moi, la voiture publique qui nous déposait 25 km plus loin, à Mataiea, chez moi. Ma femme était peu bavarde, mélancolique et moqueuse. Nous nous observions l'un l'autre sans cesse, mais elle me restait impénétrable et je fus vite vaincu dans cette lutte. J'avais beau me promettre de me surveiller, de me dominer pour rester un témoin perspicace, mes nerfs n'étaient pas longs à l'emporter sur les plus sérieuses résolutions et je fus en peu de temps, pour Terra, un livre ouvert. Je faisais ainsi, en quelque sorte à mes dépens et sur ma propre personne, l'expérience du profond écart qui distingue une âme océanienne d'une âme latine, française surtout. L'âme maorie ne se livre pas de suite. Il faut beaucoup de patience et d'études pour arriver à la posséder. Elle vous échappe d'abord et vous déconcerte de mille manières, enveloppé de rire et de changement. Et pendant que vous vous laissez prendre à ses apparences comme à des manifestations de sa vérité intime, sans penser à jouer un personnage, elle vous examine avec une tranquille certitude du fond de sa rieuse insouciance, de sa puérile légèreté. Une semaine s'écoula pendant laquelle je fus d'une enfance qui m'était à moi-même inconnu. J'aimais Terra et je le lui disais, ce qui la faisait sourire. Elle le savait bien. Elle semblait en retour m'aimer et ne me le disait point. Mais quelquefois, la nuit, des éclairs sillonnaient l'or de la peau de Terra. Le 8e jour, oh, il me semblait que nous venions d'entrer pour la première fois ensemble dans une case. Théra me demanda la permission d'aller voir sa mère à Fahoné, chose promise. Je m'y résignai tristement Et nouant dans son mouchoir quelques piastres pour qu'elle pût payer les frais du voyage et porter du rhum à son père, je la conduisis à la voiture publique. Ce fut pour moi comme un adieu. Reviendrait-elle? La solitude de ma case me chassait. Je ne pouvais fixer ma pensée à aucune étude. Plusieurs jours ensuite, elle revint. Alors commença la vie pleinement heureuse, fondée sur une assurance du lendemain, sur la confiance mutuelle, sur la certitude réciproque de l'amour. Je m'étais remise au travail et le bonheur habitait dans ma maison. Il se levait avec le soleil, radieux comme lui. L'or du visage de Terra inondait de joie et de clarté l'intérieur du logis et le paysage alentour. Et nous étions tous les deux si parfaitement simples qu'il était bon le matin d'aller ensemble nous rafraîchir dans le ruisseau voisin, comme au paradis allait sans doute le premier homme et la première femme. Paradis tahitien, nave fenua. Élève de ce paradis, se livre de plus en plus docile, aimante. Je suis embaumé d'elle. Noa, Noa. Elle est entrée dans ma vie à son heure. Plus tôt, je ne l'aurais peut-être pas comprise. Et plus tard, c'eût été bien tard. Aujourd'hui, je l'entends comme je l'aime, et par elle, je pénètre enfin bien des mystères qui jusqu'ici me restaient rebelles. Mais pour l'instant, cela n'est pas raisonné par mon intelligence, classé par ma mémoire. C'est à ma sensibilité que Terra confie tout ce qu'elle me dit. C'est dans mes sens et mes sentiments que je retrouverai plus tard ces paroles inscrites. Elle me conduit ainsi, plus sûrement que par aucune autre méthode, à la pleine compréhension de sa race par l'enseignement quotidien de la vie. Et je n'ai plus conscience des jours et des heures, du mal et du bien. Le bonheur est si étranger au temps qu'il en supprime la notion, et tout est bien quand tout est beau. Et Terra ne me trouble point quand je travaille ou quand je rêve. D'instinct, alors, elle se tait. Elle sait très bien quand elle peut élever la voix sans me déranger. Alors, nous parlons de l'Europe et de Dieu et des dieux. Je l'instruis et elle m'instruit. Je fus obligé d'aller un jour à Papeete. J'avais promis de revenir le soir même, mais la voiture que je pris me laissait à moitié route. Et je dus faire le reste à pied, et il était 1 heure du matin quand je rentrais. Nous n'avions pour le moment que très peu de luminaires, ma provision allant être renouvelée. Quand j'ouvris la porte, la lampe était éteinte, la chambre était dans l'obscurité. J'eus un sentiment brusque d'appréhension, de défiance. Sûrement l'oiseau s'était envolé. Vite, j'allumai des allumettes et je vis, immobile, nu, couché à plat ventre sur le lit, les yeux démesurément agrandis par la peur, Terra me regardait et semblait ne pas me reconnaître. Moi-même, je restai quelques instants dans une étrange incertitude. Une contagion émanait des terreurs de Terra. Il me semblait qu'une lueur phosphorescente coula de ses yeux au regard fixe. Jamais je ne l'avais vue si belle, jamais surtout d'une beauté si émouvante. Et puis, dans ces demi-ténèbres, à coup sûr peuplées d'apparitions dangereuses, de suggestions équivoques, je craignais de faire un geste qui portât au paroxysme l'épouvante de l'enfant. Savais-je ce qu'à ce moment-là j'étais pour elle? Si elle ne me prenait pas avec mon visage inquiet pour quelqu'un des démons ou des spectres Des Tupapao dont les légendes de sa race emplissent les nuits sans sommeil. Savais-je même qui elle était, en vérité? L'intensité du sentiment qui la possédait, sous l'empire physique et moral de ses superstitions, faisait d'elle un être si étranger à moi, si différent de tout ce que j'avais pu voir jusque-là. Enfin, elle revint à elle, et je m'évertuai à la rassurer et à lui redonner confiance. Elle m'écoutait, boudeuse, puis avec une voix où les sanglots tremblaient, ne me laisse plus seul ainsi, sans lumière. Mais la peur à peine dissipée, la jalousie s'éveilla. Qu'as-tu fait à la ville? Tu es allé voir des femmes, de celles qui vont au marché, boire et danser, puis se donnent aux officiers, aux matelots, à tout le monde. Je ne prêtais pas à la querelle, et cette nuit fut douce, une douce et ardente nuit, une nuit tropicale. Dera était tantôt très sage et très aimante, tantôt folle et très frivole, deux êtres en un, très différents, et qui se succédaient à l'improviste avec la plus déconcertante rapidité. Elle n'était point changeante, elle était double. L'enfant d'une race vieille. Un jour, l'éternel juif colporteur, il écume la mer comme la terre, arrive dans le district avec une boîte de bijoux en cuivre doré. Il étale sa marchandise, on l'entoure. Une paire de boucles d'oreilles circule de main en main, tous les yeux brillent, toutes les femmes la désirent. Terah fronce le sourcil et me regarde. Elle veut la paire de boucles, et ses yeux me le disent clairement. Je fais semblant de ne pas comprendre. Elle m'attire dans un coin. Je la veux. Je lui fais observer qu'en France, cette niaiserie vaut à peine 2 francs, que c'est du cuivre. Non, tout. Je la veux. Mais ce serait folie que de payer 20 francs une pareille saleté. Non, je la veux. Et avec une volubilité passionnée, les yeux pleins de larmes. Quoi, tu n'auras pas honte de voir ce bijou aux oreilles d'une autre femme? Déjà, une telle parle de vendre son cheval pour offrir la paire de boucles d'oreilles à sa vahinée. Je ne puis me résigner à cette sottise et brutalement, cette fois, je refuse. Terah me regarde encore, vaincue. Sans plus rien dire, elle pleure. Je m'éloigne, je reviens, je donne les 20 francs aux Juifs. Et le soleil reparaît. 2 jours après, c'était dimanche. Terah fait sa grande toilette. Les cheveux lavés au savon, puis séchés au soleil, et finalement frottés d'huile parfumée. La robe, un de mes mouchoirs à la main, une fleur à l'oreille, les pieds nus. Elle va au temple, répétant les psaumes qu'elle récitera tout à l'heure. Et tes boucles d'oreilles, lui dis-je. Terah fait une moue de dédain. Oh, c'est du cuivre, Alta, Pira, Pirou, Pirou. Et en éclatant de rire, elle franchit le seuil de la case et part pour le temple, redevenue grave. À l'heure de la sieste, dévêtue, nue, simple, nous sommeillons, ce jour-là comme les autres jours, près l'un de l'autre, où nous rêvons, et peut-être dans son rêve, Teura voit-elle briller d'autres boucles. Moi, je voudrais oublier tout ce que je sais et dormir toujours. Une grande noce eut lieu à Mataïa, la vraie noce, la noce légale que les missionnaires s'efforcent d'imposer aux Tahitiens convertis. J'y fus invité et Terah vint avec moi. Le repas faisait le fond de la fête et l'usage est, dans ces solennités, de déployer le plus grand luxe culinaire. Petit cochon rôti tout entier sur des cailloux chauds. Extraordinaire abondance de poissons, majorés, bananes sauvages, taros, etc. La table où un nombre considérable de convives étaient assis avait été placée sous un toit improvisé que décoraient gracieusement des feuilles et des fleurs. Tous les parents et tous les amis des deux époux étaient là. La jeune fille, l'institutrice de l'endroit, presque blanche, prenait pour époux un authentique Maori, fils du chef de Punahoula. Elle sortait des écoles religieuses de Papaete et l'évêque protestant qui s'intéressait à elle l'avait obligée à ce mariage un peu hâtivement, disait-on. Là-bas, ce que veut missionnaire, Dieu le veut. On mange et on boit beaucoup et au bout d'une heure commencent les discours. Ils sont nombreux. On les récite avec ordre et méthode. Et c'est un concours d'éloquence vraiment curieux, plein d'imprévus. Puis vient la question importante. Laquelle des deux familles donnera un nouveau nom à la mariée? Cet usage national et qui date de toute antiquité constitue une précieuse prérogative très enviée. Il n'est pas rare que la discussion sur ce point dégénère en bataille. Il n'en fut rien ce jour-là. Tout se passa paisiblement. La table tout entière était cordiale, joyeuse et pas mal ivre. Ma pauvre Vainée, entraînée par ses voisines, je ne la surveillais pas, sortit de là ivre morte, hélas, et j'eus beaucoup de peine pour la ramener au logis. Bien gaie, mais bien pesante. Au centre de la table trônait la femme du chef de Punahoa, admirable de dignité. Sa robe de velours orangé, prétentieuse et bizarre, lui donnait un vague air d'héroïne de foire. Mais la grâce innée de sa race et la conscience de son rang prêtaient à ses oripeaux je ne sais quelle grandeur. Dans cette fête tahitienne, au fumet des mets, aux odeurs des fleurs de l'île, elle ajoutait, me semble-t-il, un parfum plus fort que les autres et qui les résumait tous. Nora, Nora! Près d'elle se tenait une aïeule centenaire, affreuse de décrépitude, et que la rangée intacte de ses dents de cannibale rendait encore plus terrible. Elle s'intéressait peu à ce qu'on faisait autour d'elle, immobile, rigide, presque une momie. Mais sur sa joue, un tatouage, une marque sombre, indécise dans sa forme, qui rappelait le style d'une lettre latine, parlait à mes yeux pour elle. Oh, j'avais déjà vu bien des tatouages, je n'avais vu aucun dans le caractère de celui-ci. Celui-ci était sûrement européen. Autrefois, me dit-on, les missionnaires, sévissant contre la luxure, signaient certaines femmes d'un signe d'infamie, d'un avertissement de l'enfer, ce qui les couvrait de honte, non point à cause du péché commis, mais à cause du ridicule et de l'opprobre d'un tel signe de destruction. Je compris alors la défiance des Maoris vis-à-vis des Européens, défiance qui persiste aujourd'hui encore, très tempérée d'ailleurs par la généreuse hospitalité océanienne. Que d'années entre l'aïeul marqué par le prêtre et la jeune fille mariée par le prêtre. La marque est visible encore, double témoignage d'infamie, et pour la race qu'il a subie, et surtout sans doute pour la race qu'il a infligée. 5 mois plus tard, la jeune mariée mit au monde un enfant bien conformé. Fureur des parents qui demandaient la séparation. Le jeune homme n'y voulut point consentir. « Puisque nous nous aimons, qu'importe, n'est-il pas dans ton usage d'adopter les enfants des autres ?»« J'adopte celui-ci. » Mais un point dans toute cette histoire resta obscur. Pourquoi l'évêque, réputé comme excellent coq gaulois, s'était-il tant remué pour rater la cérémonie légale et religieuse du mariage? Les mauvaises langues insinuaient que... Et que ne disent pas les mauvaises langues? L'ange de l'Annonciation sait peut-être le mot de cette énigme. Et peut-être, qu'importe.